France Musique.
Bonjour Florence Bolton.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Benjamin Perrault.
Bonjour.
C'était Benjamin Lazare qu'on attendait, qui est acteur et metteur en scène et qui est sur scène avec vous jusqu'au 12 octobre dans L'Autre Monde ou Les États et en Pierre de la Lune au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet à Paris. Mais il est un petit peu fatigué. On est ravis. Moi, je suis ravi de vous rencontrer parce que je vous connais pas, Benjamin Perrault, et que vous, tous les deux, vous avez créé maintenant, il y a 15 ans, si je compte bien, La Rêveuse, un ensemble qui a eu l'idée de ce titre, qui est une pièce de Marin Marais.
Oui, voilà.
Voilà.
C'est vous.
Le titre, c'est le nom d'un ensemble, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. C'est plus difficile que de faire la musique elle-même. Et en fait, au début, on a réfléchi à des noms et tout ça. Et puis en fait, c'est venu tout seul en déchiffrant la pièce. Tout simplement, on s'est dit, ben voilà notre nom, c'est parfait.
Et puis, on aime bien rêver aussi.
Florence Bolton, vous vous frottez les cordes et vous, Benjamin, vous les grattez.
Si on peut dire, je les pince.
Vous les pincez.
Mais parfois, je les gratte aussi. Si, c'est vrai.
Guitare, théorbe, lutte. Et vous, Florence,
viol de gambe.
Alors, dans ce spectacle, on va en parler beaucoup d'autres choses. On va écouter aussi en avant-première sur France Musique votre prochain disque qui sort dans quelques semaines, dans quelques mois même. Mais d'abord, vous êtes, si je ne m'abuse, ancré, La Rêveuse, dans une région, la région Centre, à Orléans. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce cadre-là, ce cadre de vie pour votre travail ?
On avait envie de quitter Paris, comme beaucoup de Parisiens, pour avoir un peu plus d'espace. Et puis finalement, il s'est trouvé que oui, on a été conventionné par la région et ça fait maintenant pas mal d'années qu'on fait un travail, et la DRAC aussi. Et ça fait maintenant pas mal d'années qu'on fait du travail en région, notamment avec l'Opéra Bus. On en avait parlé l'année dernière.
On en reparlera tout à l'heure.
Et qu'on fait pas mal de choses aussi sur le territoire.
Dans ce spectacle autour de Cyrano de Bergerac, qui s'appelle L'Autre Monde ou Les États et Empire de la Lune, il y a plusieurs musiques, et notamment la musique de Marin Marais. Alors pas forcément celle-ci, mais vous l'avez enregistrée. Marin Marais, la Biscayenne, l'ensemble La Rêveuse, Florence Bolton, Benjamin Perrault, nous invités ce matin. C'est quoi la Biscayenne ?
Ah, c'est une pièce de caractère, comme Marais aimait les faire. Et on imagine que c'est une jeune fille un peu chaude, hein, peut-être, vu la pièce, qu'il a peut-être croisée dans les rues de Paris. Mais il y a beaucoup de portraits anonymes, donc on ne saura pas qui c'est.
L'ensemble La Rêveuse, c'est comme beaucoup d'ensembles baroques, vous deux, les socles et les fondateurs, mais ensuite à géométrie variable. Là, par exemple, vous êtes combien dans cette pièce qu'on vient d'entendre ?
Dans la Biscayenne, on est quatre.
Donc il y a le clavecin en plus.
Oui, et puis une autre viole, Robin Faro et Karsten Loof.
Vous n'êtes que deux sur scène à partir de ce soir jusqu'au 12 octobre. Reprise de L'Autre Monde ou Les États et Empires de la Lune, Cyrano de Bergerac avec Benjamin Lazare qui signe la mise en scène. Comment vous vous êtes lancé dans ce spectacle ? C'était il y a un moment, là c'est une reprise.
C'était il y a un moment.
Benjamin Perrault.
En fait, ça fait, une vingtaine d'années qu'on se connaît avec Benjamin Lazare. Et puis on avait parlé de ce texte, il se trouve que on l'avait lu, tiens tu connais ça, ah oui c'est extraordinaire, et puis Benjamin nous dit ah j'adorerais faire un spectacle là-dessus. Finalement on l'a fait 5 ans plus tard, donc en 2004, mm-hmm. On l'a créé au festival L'Arc la Bataille.
Au moment où vous avez créé l'ensemble d'ailleurs.
Et finalement c'était à peu près la même période. Et on était loin de se douter qu'on allait jouer ce spectacle aussi longtemps. Mais finalement, il a eu vraiment une vie assez extraordinaire pour un spectacle baroque un peu expérimental aussi.
On retrouve la patte de Benjamin Lazare avec ses éclairages à la bougie, ce côté artisanal, quelques accessoires. Il a évolué le spectacle en 15 ans ?
Oui.
Comment vole-t-on ?
C'est vrai qu'en plus, à l'origine, ce n'était pas un texte de théâtre, donc il a fallu l'adapter. Et donc,
c'est
Benjamin...
un roman, presque,
ouais, c'est un
peut
roman.
Dire que c'est le premier roman de science-fiction.
Et voilà, avant Jules Verne. Alors, il y a eu un autre voyage dans la Lune un peu avant. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Cyrano retrouve sur la Lune, c'est écrit par un Espagnol, et Cyrano retrouve... écrit par un Anglais, et Cyrano retrouve le personnage qui est espagnol sur la Lune, donc dans L'Autre Monde. Il y a tout ce passage où il retrouve l'espagnol et les lunaires le prennent pour la femelle et l'espagnol pour le mâle. Donc il y a tout ce petit passage qui est assez drôle.
Question de genre.
Voilà, la question de genre, mais c'est un texte très moderne qui questionne sur beaucoup de choses qui sont encore d'actualité. Et finalement, on a gardé, les coupes qu'on a faites, on les a gardées pendant un petit moment. Et à un moment, on s'est dit, tiens, ça, peut-être qu'on peut l'enlever, ça, voilà. Donc finalement... Ça fait peut-être depuis la dernière reprise à l'Athénée en 2013. Là, on a vraiment le texte qui n'a plus bougé.
À peu près
donc,
définitive.
Ça évolue toujours un petit peu après une création.
Jusqu'au prochain changement.
Texte de Cyrano de Bergerac, qui n'est pas que un personnage d'Edmond Rostand, donc, et sur la Lune. Donc, ça permet de dire des choses qui se passent sur la Lune qu'on ne pourrait pas dire quand ça se passe sur la Terre.
Exactement.
Voilà. C'est un peu le principe en fait qu'a utilisé Voltaire dans ses contes philosophiques. Sauf que c'est quand même à peu près 100 ans plus tôt. Je dirais que c'est plus subversif que Voltaire. C'est un texte extraordinaire qui est étonnamment, finalement, assez peu connu par rapport à son importance dans l'histoire des idées, par rapport aussi à la langue. C'est un des plus beaux textes de la langue française. Tout le monde devrait le lire. Mais finalement, quand on parle de Cyrano de Bergerac, tout le monde a en tête le personnage de Rostand, mais beaucoup de gens, étonnamment, ne savent pas que Cyrano de Bergerac était un auteur du XVIIe.
Et puis c'est aussi, c'est pas la première utopie, parce qu'il y en a eu déjà, mais vous savez, une utopie, ça se passe toujours sur une île ou dans un monde loin. Et là, sur la Lune, tout marche à l'envers pour Cyrano. Et on avait eu envie aussi de faire ce petit clin d'œil dans la musique, où au moment où il arrive sur la Lune, c'est la viole qui accompagne le luth, donc les choses s'inversent aussi.
Alors précisément, il y a cette esthétique, on se croirait un peu à l'Athénée dans un tableau de la tour avec ses éclairages, ce noir, ce clair-obscur. Et puis il y a les musiques, comment vous les avez choisies et comment vous la concevez, cette bande-son ? Est-ce que c'est la bande-son comme d'un film muet ? Est-ce que c'est un accompagnement ? Est-ce que la musique raconte une histoire ?
Alors c'est aussi un prolongement du discours. C'est vrai que la musique au XVIIe, c'est aussi un discours. Et il y avait cette idée très forte chez Cyrano que les lunaires parlent en musique. Donc ça permettait aussi de justifier que la musique ait un rôle finalement assez important dans le spectacle. D'ailleurs, à un moment, on fait même un petit passage où les lunaires ont une vraie conversation entre eux. Donc il y a le langage des nobles et le langage du peuple. Et oui, ça permettait vraiment de justifier la musique. Et Cyrano a eu notamment un grand ami qui a été son amant même pendant un petit moment, qui s'appelle Charles d'Assoucy, qui était un poète et un luthiste, une forte personnalité. Et on s'est dit, il faut aller vraiment dans cette direction, chercher d'autres fortes personnalités en musique qui sont un peu des reflets de Cyrano aussi. Et donc on a pris Sainte-Colombe, Capsberger, enfin des gens très, très modernes finalement.
L'autre monde où les États et empires de la Lune, c'est à Paris au Théâtre de l'Athénée avec Benjamin Lazare. C'est jusqu'au 12 octobre et ce sera aussi dans le Pas-de-Calais le 14 décembre au château d'Ardelot. On quitte Paris et on part pour Londres. Adagio de cette sonate, elle est en fa majeur de William Croft avec l'ensemble La Rêveuse, nos invités ce matin sur France Musique. Florence Boulton et Benjamin Perrault, les fondateurs de l'ensemble La Rêveuse il y a 15 ans. Qui est-ce William Croft ?
Alors, on pourrait dire un illustre inconnu. Non, c'est un très bon compositeur contemporain de Purcell. Et quand on a enregistré le disque Londres 1700, on avait envie aussi de montrer tout ce qui se cache derrière. Quand on pense à la fin du XVIIe en Angleterre, on pense évidemment à Purcell, Blow, on a quelques grands repères comme ça. Et ce projet Londres, autour de Londres, qui sera décliné en quatre disques, a un peu pour but de montrer que voilà, il y a les grands compositeurs, mais il y a aussi des compositeurs qui ne sont pas passés à la postérité, mais dont il y a quand même pas mal de choses intéressante, et donc William Croft fait partie de ce lot des oubliés, on peut dire.
C'est la semaine anglaise sur France Musique, mais vous, c'est vos années anglaises, donc vous allez puiser, vous faites vraiment des découvertes, vous allez trouver des manuscrits dans les bibliothèques, des choses qui ont parfois jamais été enregistrées.
Bah, on cherche pas mal, oui. Alors il y a cette sonate de Draghi qui est sur ce disque, Giovanni Battista Draghi, qui est un Italien.
Qui a un nom plutôt italien, c'est voilà. Ce que j'allais dire.
Voilà, il y a beaucoup d'étrangers, finalement, ça fait résonner l'actualité aussi, mais il y a beaucoup d'étrangers qui s'installent à Londres à cette époque-là. Londres devient une ville très ouverte, et Giovanni Battista Draghi est appelé finalement pour créer un opéra italien à Londres qui finalement ne va pas vraiment se faire. Ça sera plus tard avec les années Handel. Mais Draghi reste là et finalement il a une finalement il change complètement l'art du chant en Angleterre qui ne ressemblait pas du tout au bel canto. Et voilà, il arrive avec plein de chanteurs qui vont révolutionner finalement le chant anglais et dont Purcell va profiter dans ses opéras.
Donc Londres 1700, le disque est sorti, c'est votre dernier disque en date. Londres, et puis vous allez avancer dans le temps
voilà.
Sur les prochains projets.
Voilà, après il y aura Londres 1720, mm-hmm. Londres 1740 et Londres 1760.
1760, c'est très tard pour vous. vous n'avez jamais joué de la musique
alors,
aussi récente.
Mais finalement, il y avait Abel et tout ça qui était en Angleterre, donc il y a encore un peu de quoi faire.
Alors quand vous n'êtes pas dans les bibliothèques, quand vous n'êtes pas à Londres, quand vous n'êtes pas au théâtre de l'Athénée, Florence Bolton, Benjamin Perrault, vous êtes dans votre bus, l'opéra bus, ça reprend, vous reprenez la route prochainement, c'est en novembre. C'est quoi ce bus?
Alors c'est un bus aménagé en salle de concert, je dirais même en salle d'opéra, puisque ça reprend un petit peu l'esthétique de l'opéra Garnier, mais c'est dans un bus, voilà, 30 places ou 40 si c'est des enfants qui sont plus petits. Et en fait, c'est un outil formidable qui appartient à une association qui s'appelle Harmonia Sacra, qui est à Valenciennes, et qu'on a découvert en Bretagne au Festival de l'Anvélec, qui nous avait demandé de faire quelques dates. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à faire venir ce bus dans notre région, parce que c'est un outil formidable d'action culturelle pour aller dans des endroits où il n'y a pas de salle de spectacle.
Donc c'est pour les enfants, mais pas seulement. Là, je vois toutes les dates de novembre. Alors, vous y serez vraiment tous les jours. Vous allez dans des quartiers, vous allez sur des campus. Donc là, c'est pour des étudiants.
Exactement. Alors, c'est tout. Avec le bus, on voit tous les milieux, tous les âges. Vraiment, c'est depuis l'école primaire jusqu'aux personnes âgées, les tout publics, etc. Et le bus permet une proximité avec le public, puisqu'il y a 30 ou 40 personnes au maximum. Permet aussi une sorte de dialogue, c'est un peu interactif. Et c'est une expérience vraiment extrêmement riche et qui nous permet d'aller vraiment jouer dans des endroits où on ne serait jamais allé autrement. Et puis il y a des gens qui ne vont jamais au concert de découvrir cette musique.
Mais c'est quoi? C'est un opéra de 3 heures que vous leur proposez dans le bus?
Non, on fait des espèces de concerts interactifs où justement c'est pour les gens qui n'osent pas et qui disent « Oh là là là, le concert classique, c'est pas pour moi ». Donc surtout, ceux-là sont particulièrement les bienvenus chez nous puisque voilà, ils peuvent poser des questions. On a le fait qu'ils soient très proches permet aussi de d'avoir cet échange avec le public et qu'ils osent parler à des musiciens. Et comme on se dit souvent, on fait un espèce de c'est pas sorcier de la musique ancienne. Mais ça fait des surtout ça permet de relayer dans les territoires. Il n'y a pas forcément d'enseignement de la musique partout. Il y a des gens qui ne vont pas au concert. Enfin voilà, ça permet de mettre un petit jalon et de faire passer le concert classique, que les gens s'habituent aussi à aller au concert. Enfin, voilà, si on peut encourager les gens à y aller, c'est super.
Parce qu'on peut venir comme ça, on va voir sur le site internet les dates, il n'y a pas besoin de s'inscrire.
Alors souvent il y a une billetterie pour pas qu'il y ait de bagarre parce que le bus est très vite tout plein. Petit. Mais par contre les places sont soit gratuites, soit très peu chères.
C'est du 12 au 26 novembre dans toute la région Centre-Val de Loire, l'Opéra Bus de La Rêveuse. C'est un cadeau, c'est une avant-première. Le disque sort le 14 février, c'est la Saint-Valentin.
Et oui, pour les amoureux.
Et ce sera un disque Dietrich Buxtehude et ses contemporains, extrait sur France Musique. sublime musique peu connue, Dixit Dominus de Dietrich Buxtehude, la voix de Maëlys de Villoutré et l'ensemble La Rêveuse, votre ensemble, Florence Bolton, Benjamin Perrault, merci de nous avoir apporté en exclusivité ce premier extrait de ce disque Dietrich Buxtehude et ses contemporains qui paraîtra en début d'année prochaine, donc le 14 février, c'est votre prochain disque. Et toujours, il y a ce compositeur, Buxtehude, et puis autour des inconnus souvent illustres.
Voilà, comme pour Londres. Donc là, il y aura Franz Thunder, bon, qui est un petit peu connu, c'était le prédécesseur de Buxtehude à Lübeck. Christian Geist, qui est un compositeur qui a été un peu à Hambourg. Et puis Johann Philipp Förtsch, qui a fini sa vie à côté de Lübeck et qui, curieusement, a fini médecin et homme politique. Comme quoi, la musique mène à tout.
Là aussi, vous avez fait des découvertes sur ce projet de disque. Ce n'est pas la première fois que vous enregistrez Buxtehude, vous continuez?
Oui, on continue à chercher.
Oui, on a fait des découvertes, notamment certaines œuvres de Buxtehude très peu jouées, comme ce Dixit, par exemple. Et puis aussi Schütz, Gabriel Schütz, qui est un autre compositeur contemporain.
Oui, Gabriel.
Voilà, qui n'est pas le Heinrich Schütz que tout le monde connaît. Et lui qui était instrumentiste, violiste. Et c'est une chose qu'on aime faire, de mettre autour d'un grand compositeur, des compositeurs un peu moins connus, pour donner un peu l'esprit du temps aussi. Parce que Buxtehude, c'est une forte personnalité, on connaît ce qu'il fait, et puis à côté, c'est bien d'entendre des choses un petit peu différentes. Ça replace un petit peu le contexte.
C'est ce qui revient en fait un peu toujours dans votre travail depuis 15 ans à tous les deux. C'est ce qui revient aussi d'ailleurs dans ce spectacle, L'autre monde ou les états et empires de la lune à l'Athénée Louis Jouvet à Paris jusqu'au 12 octobre, où il y a Mara Mara mais aussi d'autres compositeurs moins connus. J'y repense d'ailleurs, ce spectacle, moi, que j'avais vu il y a longtemps. Quand on est maquillé, quand on est costumé, on est différent sur scène.
Ah oui, complètement. C'est vrai que je me suis dit ça quand on a fait la générale là, pour ce spectacle. À la reprise, on n'était pas maquillé et on se sentait pas dans le rôle, quoi. Non, c'est vrai, c'est important.
L'Opéra Bus est du 12 au 26 novembre. Vous en avez des souvenirs précis? S'il y a un souvenir qui vous reste de la première tournée l'an dernier?
La joie des gens. Et la facilité avec laquelle on a pu monter cette nouvelle tournée, ça fait plaisir parce qu'il y a eu du bouche à oreille, alors que la première fois, on a quand même eu des difficultés à la monter. Le fait que ça soit de plus en plus facile, je trouve que ça fait plaisir parce que ça met un peu là aussi, ça encourage les gens à se tourner vers le concert classique parce qu'il n'y a pas beaucoup de concerts classiques, en tout cas en milieu rural, en région centre.
Et puis à propos de jeunes publics, vous serez le 23 octobre dans Jacques et le haricot magique, spectacle de marionnettes et de musique ancienne. C'est à l'espace Aragon de Saint-Florent-sur-Cher, dans le Cher. Merci d'être venu sur France Musique ce matin. Merci de nous avoir apporté cet extrait exclusif Buxtehude. On en reparlera dans quelques mois sur France Musique. On se quitte avec Marin Marais.
Merci.
Gavotte singulière de Marin Marais, c'était l'ensemble La Rêveuse.
À réécouter sur francemusique.fr.